France Inter, le 18-20.
Deux heures de réflexion ce soir encore jusqu'à 20h sur la crise du coronavirus et sur les leçons à tirer de cette pandémie avec deux invités. Tout d'abord jusqu'à 19h, l'explorateur Jean-Louis Etienne qui est aussi médecin, on l'oublie parfois, et le chercheur Jean-François Guégan qui est un spécialiste des liens entre santé et environnement. On verra que notre avenir et celui de la planète sont intimement liés. On verra aussi que certains commencent à s'impatienter. Après 5 semaines et demie de confinement, une pétition réclame le droit à un accès raisonnable à la nature, c'est ce que nous dira Célia Quiré. Examen également au sommaire de cette émission préparée par Irène Menahem et Virginie Rouzic, notre rubrique « Confinés mais pas résignés ». Depuis le début de la pandémie, en effet, certains font preuve de beaucoup d'imagination. Grâce à Antoine Lee, on ira en Ille-et-Vilaine où un Fab Lab, un laboratoire de fabrication numérique, a mis au point un ouvre-porte qui permet de ne pas toucher les poignets avec ses doigts. Un Fab Lab qui produit également gratuitement des visières de protection. À 19h, le journal d'Yves Decamps. À 19h20, au téléphone sonne, question sur les pénuries de médicaments, sur la façon de retrouver un minimum d'indépendance en matière de production. Vous pouvez nous appeler au 01 45 24 7000 pour poser vos questions, que ce soit sur les médicaments ou sur les liens entre santé et environnement. D'avance, un grand merci à tous, ainsi qu'à l'équipe technique, Henri Bérec, Ronan May. Merci aussi à Maxime Cochelin, au standardiste de l'émission, et à Olivia Ferrandi pour la rédaction en chef.
Claire Servageant. Le 18-20.
Bonsoir Jean-Louis Etienne.
Bonsoir Claire.
Faut-il encore vous présenter, Jean-Louis Etienne, explorateur, aventurier, amoureux de la nature, passionné par les grands espaces, premier à avoir atteint le pôle Nord en solitaire en 1986. Vous êtes aussi médecin, Jean-Louis Etienne. C'était votre premier métier, si je puis dire, puisque vous étiez chirurgien. J'imagine qu'en tant que médecin, ce qui se passe ne peut pas vous laisser indifférent. D'ailleurs, personne ne peut rester indifférent, mais un médecin sans doute encore moins.
Oui, mais écoutez, j'ai fait quand même, vous l'avez mentionné, j'étais interne en chirurgie, j'ai fait beaucoup de médecine générale pour gagner ma vie, je faisais des remplacements, et donc j'ai vécu ce que c'était des épidémies de grippe, mais des grippes hivernales, si vous voulez, saisonnières, qui étaient fortes, mais là, ce qui nous arrive, ça nous dépasse, c'est planétaire, et je peux imaginer aujourd'hui, si vous voulez, ce que vivent les gens. Je suis privilégié, je suis chez moi dans le Tarn où il y a de la place, mais je peux imaginer, c'est une épreuve incroyable, inouïe, et ce que j'entends, si vous voulez, ce que j'entends des gens qui se resserrent, des gens qui se ressoudent, des gens qui tiennent le coup, je suis admiratif parce que c'était inimaginable. Si on avait dit ça il y a un mois et demi, qu'on allait s'enfermer un mois et demi, je pense qu'il y aurait eu une révolution. Il y a une résilience qui s'adapte petit à petit. Et je le dis tout le temps, on repousse pas ses limites, on les découvre. On a des capacités d'adaptation, encore une fois, de résilience, d'imagination, parce qu'il faut pas mal d'imagination pour vivre enfermé dans une pièce longtemps. Je suis assez ébahi par le comportement des citoyens.
C'est vrai que vous avez participé, Jean-Louis Etienne, à de nombreuses expéditions, des tours du monde à la voile, des dérives sur la banquise. Alors c'est vrai que on a un petit peu de mal à vous imaginer confiné. Comment ça se passe? En fait, vous êtes chez vous dans le Tarn, c'est ça? C'est pas le pire des endroits pour être confiné, hein?
Non, Claire. Non, je suis là avec ma famille, donc la devise c'est interdiction de se plaindre. Si vous voulez. On est quand même, moi j'ai une maison qui est dans les bois, si vous voulez, donc on est là, on peut sortir, on peut respirer l'air pur. Bien sûr, on ne peut pas aller au-delà de la maison et des quelques bois qui nous entourent, mais en fait, on s'en sort plutôt bien. Et il se passe quelque chose et que j'avais vécu en expédition, notamment au pôle Nord en 1986, j'étais en solitaire, et en 86, il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas de GPS, il n'y avait rien, donc c'était d'une grande intensité. Et je me suis retrouvé comme dans une forme de confinement, en fait, voulu bien sûr, mais quelque chose qui me dépassait. Et je me suis rendu compte qu'il m'a fallu à peu près 3 semaines pour me déshabituer du monde. Et j'ai l'impression que c'est ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire, il faut réapprendre à vivre avec soi, réapprendre à vivre avec ses proches, sortir des automatismes que l'on a tous les jours pour inventer quelque chose de plus paisible. Je crois qu'on n'en ressortira pas de nouveau, je dirais pas... pas intact, mais meilleur, parce que c'est une épreuve qui nous met en face de notre capacité d'adaptation.
Est-ce que vous pourriez nous décrire, Jean-Louis Etienne, l'endroit qui vous entoure? Vous nous avez dit c'est dans la forêt. Là, par exemple, vous êtes, je sais pas, dans votre maison. Il y a quoi? Il y a les arbres devant vous. Décrivez-nous un peu le paysage. Ah non, mais faites-nous baver un petit peu.
Oui,
allez, alors, on va dire ça.
Si vous voulez, j'ai vraiment beaucoup voyagé, effectivement, et le voyageur, il rêve toujours de l'endroit où il va trouver le lieu, vous voyez, où il, ça y est, là, je vais enfin pouvoir poser mon sac. Et donc, j'en ai trouvé des coins magnifiques. Et un jour, en rentrant de la traversée de l'Antarctique, donc ça va durer 7 mois, des conditions difficiles, je suis revenu dans mon village, donc Vielmur, où je suis né, où j'ai remplacé le médecin, où les gens me connaissent, et je suis monté sur un coteau, et je me suis dit, mais attends, mais c'est là. Voilà. Donc je suis installé sur un coteau au-dessus de mon village natal, au-dessus de la vallée de la Goutte. Le village natal s'appelle Vielmur. Si vous voulez, à l'entrée du village, il y a un panneau marqué « Village natal de Jean-Louis Étienne ». Donc je suis 100% chez moi. Et donc je suis sur ce coteau. Au fond, ce matin, on voyait les Pyrénées, ça s'est un peu embrumé. Mais j'ai assisté, si vous voulez, on est arrivé ici quand on nous a dit qu'on allait être confiné. On est venu en famille ici, donc on est à la maison. Et on a assisté à la venue du printemps. Donc de là où je suis, je domine la vallée, je suis dans une maison qui est sur pilotis dans les arbres, que j'ai construite moi-même, j'adore le travail du bois. Et donc pour le moment on est là, donc le mot confinement, si vous voulez, je vais pas me plaindre, oui.
Ça veut dire qu'on peut s'inventer des aventures dans son jardin. Je dis ça parce que je crois que quand vous étiez petit, vous alliez camper au fond de votre jardin. Donc vous ne faites que continuer, c'est ça?
Oui, en fait, c'est vrai. Moi, je suis né donc à la campagne. Derrière chez moi, il y avait les champs. J'avais des animaux apprivoisés. J'ai toujours vécu dans la nature. Et j'ai toujours rêvé de faire des expéditions. Je ne sais pas pourquoi. Mon père était tailleur d'habits. Ma mère était vendeuse dans un magasin. Voilà, moi j'ai toujours rêvé de ça, et je dis tout le temps, une des premières expéditions que j'ai faites, j'ai campé dans mon jardin quand j'avais 8 ans. En fait, vous voyez, j'ai fait ce parcours de médecin qui me plaisait, et en fait je suis revenu, grâce à la médecine qui m'a mis le pied à l'étrier, à cette vie d'expédition scientifique, pédagogique, que j'aime bien et que je continue toujours. Donc ce qui est important, c'est de persévérer sur la voie de ses rêves. Vous voyez, quand quelqu'un qui nous écoute, il a un rêve, un truc, mais si on lui dit c'est trop compliqué, mais tu n'y arriveras pas, mais c'est pas pour toi, c'est un peu ce qu'on me disait. Et en fait, la persévérance sur la voie de ses rêves, c'est quelque chose qui permet de se construire.
Pour en revenir à ce que vous disiez à propos du confinement quand on est au bout du monde et qu'en fait on est en pleine nature, est-ce que cette expérience, elle vous sert aujourd'hui?
Oui, ah oui, surtout le confinement que j'ai évoqué tout à l'heure, le pôle Nord, parce qu'en fait, le pôle Nord est au milieu d'un océan gelé. Et donc j'avais rêvé de ce truc-là, je voulais être le mec qui a été au pôle Nord en solitaire, c'était comme une conquête de l'Everest, si vous voulez, pour moi. Et le petit avion sur ski qui m'a déposé au nord du Canada, il n'est pas resté longtemps parce qu'il faisait moins 48, il m'a laissé là, au revoir. Et je me suis retrouvé en face de moi une banquise qui était chaotique, qui faisait moins 48. Et là, j'ai pas pu me dire, mais là, je vais réaliser mon rêve. Non, ça m'a pris tout d'un coup. Je me suis retrouvé prisonnier de cette histoire-là qui me dépassait complètement. Et en fait, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? D'abord, j'ai commencé à rêver de trouver une bonne raison d'abandonner. Vous voyez, les raisons d'abandonner, de poser les bras, de démissionner. Et puis, je me suis dit, je vais faire un jour après l'autre et je verrai. Et en fait, comme je vous disais tout à l'heure, au bout de 3 semaines, je suis entré dans mon histoire. En fait, on vit une sorte de routine tout le temps. On se lève le matin, le café, la radio, on va au travail, etc. Donc on a des routines. Et là, il y a une rupture avec cette routine, donc il faut se réinventer. Et encore une fois, je le dis, on a des capacités que l'on ignore de soi tant qu'on n'a pas été confronté à ça. Et moi, ce voyage intérieur, si vous voulez, que j'ai fait en allant au pôle Nord, c'est quelque chose qui a été un vrai squelette. Et je suis devenu beaucoup plus résilient. Et je sais par expérience que après la marée basse, il y a toujours la marée haute qui revient, quoi. Et c'est cette expérience-là, si vous voulez, que j'ai acquise. Et je dis tout le temps aux jeunes que je vois, suis la voie de tes rêves, même si le chemin est difficile. Parce que le découragement est un obstacle permanent à passer, sinon on ne se construit pas, rien n'existe.
Jean-Louis Étienne, vous pensez que ce qu'on est en train de vivre, là, c'est quelque chose qui peut apprendre à mieux se connaître? Est-ce que c'est quelque chose qui va peut-être changer les gens au fond d'eux-mêmes, changer leurs priorités, leur façon de voir les choses?
Certainement. Et alors j'ai en face de moi, sous les yeux, quand je dis sous les yeux, c'est le village là qui fait à peu près 1000 habitants, il s'appelle Vielmur, j'ai rencontré la mairesse, et donc elle m'a dit quelque chose d'intéressant, c'est que Le village s'est mobilisé pour les personnes qui étaient en difficulté, pour leur amener des repas. Il y a des petits-enfants qui font des dessins pour les personnes, leur sauter du courage. Il y a 28 personnes qui ont sorti la machine à coudre pour faire des masques. Et elle me dit, il y a une grosse part de la population de personnes qui étaient exclues de cette modernité qui arrive, si vous voulez, et qui va trop vite pour eux. Et ils ont senti pour une fois qu'ils redevenaient utiles. Et en fait, je suis sûr que cette expérience-là, de se rendre utile pour les autres, c'est quelque chose qui nous redonne du courage, qui nous redonne confiance et qui nous redonne du sens à la vie.
Et qui crée des liens et des tas d'initiatives de solidarité.
Absolument,
ça, on le voit absolument tous les jours. Cet épisode aussi, il va nous amener à nous poser des questions quant à notre lien avec l'environnement, Jean-Louis Etienne. Ça, c'est une évidence.
Mais bien sûr, parce qu'en fait, on s'en rend pas compte. Nous avons à peu près 100 fois plus dans notre corps des virus que de cellules. Nous sommes investis de virus, mais des virus qui ne sont pas pathogènes pour nous. Et il y a dans la nature ce qu'on appelle des porteurs asymptomatiques ou des porteurs sains. Si vous voulez, une tas d'espèces, des chauves-souris, tous les animaux sont porteurs de virus. Ils sont les porteurs sains. Et à un moment donné, quand on détruit qu'on dégrade un écosystème dans lequel ils vivent, on met en relation des espèces qui n'ont pas l'habitude de se côtoyer, qui se transmettent des virus pour lesquels ils ne sont pas immunisés et qui petit à petit vont voyager jusqu'à nous. Donc en détruisant ces habitats-là, nous mettons à jour des nouvelles espèces de virus contre lesquels nous ne sommes pas immunisés. On l'a vu avec Ebola, si vous voulez. C'était typique. Il y a un autre facteur qui est en train de détruire l'équilibre des écosystèmes, c'est le réchauffement climatique. Et effectivement, on détruit des écosystèmes. Vous savez, la nature, c'est une immense mutuelle où toutes les espèces ont la vie en commun. Nous faisons partie de cette mutuelle. On a intérêt à cotiser, à respecter, si vous voulez, cette mutuelle, sinon ça se retournera contre nous.
Ah ben, c'est justement ce dont on va parler à présent avec le chercheur Jean-François Guégan. Vous restez en ligne, évidemment, Jean-Louis Etienne. Bonsoir Jean-François Guégan.
Bonsoir.
Merci beaucoup d'être avec nous également. Vous êtes directeur de recherche à l'INRAE, l'Institut National de Recherche pour l'Agriculture, l'Alimentation, l'Environnement, professeur à l'École des Hautes Études en Santé Publique. Votre champ d'action, ce sont justement les relations entre l'environnement et la santé. Je suis sûr que vous êtes d'accord avec ce que vient de dire Jean-Louis Etienne, mais peut-être d'abord dites-nous si pour vous, cette pandémie était prévisible.
Alors, pour faire écho à ce que vient de dire monsieur Etienne, moi j'ai pas connaissance des pôles, mais j'ai une connaissance profonde des forêts primaires d'Afrique, d'Amérique centrale et du Sud, que je connais très bien pour y avoir vécu, et pour continuer à y étudier. Et donc, oui, effectivement, le virus à Covid-19, donc, qui a généré cette pandémie, a bien une origine animale, certainement, bien entendu, en Asie du Sud-Est. Et cette origine dite zoonotique, eh bien, il faut la rechercher dans les interactions de plus en plus importantes et les impacts que la civilisation humaine est en train d'exercer aujourd'hui en termes de pression sur les écosystèmes naturels, et notamment, dans ce cas-là, très probablement, sur la chasse de certaines espèces, en particulier le problème de la chasse de viande de brousse est un problème majeur aujourd'hui pour la rencontre entre de nouveaux virus qui sont originaires de ces grands biomes forestiers tropicaux et l'humain. Les premiers à être exposés à ces virus ou à ces bactéries, ce sont les chasseurs, les éleveurs, les agriculteurs qui rencontrent ces micro-organismes qui, à l'origine, dans ces écosystèmes et ces biomes intertropicaux, sont souvent des formes plutôt positives, bénéfiques, que l'on appelle des symbiotes ou des commensaux de leurs hôtes. Et l'exposition et la rencontre avec quelques individus humains permet leur passage. Et à ce moment-là, et par ces circonstances-là, ils deviennent pathogènes pour l'espèce humaine.
Et sur justement la vitesse à laquelle s'est propagée cette pandémie, est-ce que vous avez été surpris ou pas ? Parce que là, c'est toute la planète qui est concernée. Il y a 4 milliards d'individus qui sont confinés. C'est absolument gigantesque. On n'avait jamais vu ça.
On a jamais vu ça, effectivement. Ce que l'on sait aujourd'hui, il y a des statistiques qui ont été données et publiées, c'est que en février et très certainement en janvier, hein, à partir de la zone où est apparue donc ce que l'on appelle une émergence dans la ville de Wuhan, dans la province du Hubei en Chine, il y a des estimations, environ entre 3 et 5 millions de personnes qui ont quitté cette région. et donc qui ont quitté pour rejoindre leur famille. Vous avez énormément aujourd'hui de populations chinoises installées un peu partout dans le monde, et on pense là à l'Afrique, hein. Eh bien, sont certainement parties en possession du virus qu'on n'avait pas encore caractérisé, et qu'on allait caractériser ensuite, et ont très probablement disséminé ce germe de manière planétaire.
Jean-François Guégan, vous avez fait partie du Haut Conseil de la Santé publique il y a quelques années. Vous avez même, je crois, conseillé Roselyne Bachelot quand elle était au ministère à l'époque de la grippe H1N1. Comment est-ce que vous expliquez qu'on en soit encore aujourd'hui en France à tenter de se procurer des masques? On était vraiment aussi mal préparé à tout ce qui nous arrive?
Alors normalement, on n'aurait pas dû l'être, puisqu'il y a un plan de préparation. Nous avons nous-mêmes, avec le professeur Catherine Leport, coordonné un rapport national, qui est un rapport d'État que chacun de vos auditeurs peut trouver sur Internet. Il suffit de taper nos noms et vous aurez directement ce rapport, qui était un rapport de préparation à ces épidémies et pandémies. Et nous avions à l'époque préconisé, bien entendu, l'achat des fameux vaccins contre H1N1, mais aussi à pouvoir disposer d'un certain nombre de masques, hein, c'est-à-dire en abondance. L'estimation est environ 1,3 milliard de masques. Et suite à cette période, eh bien, il y a eu certainement des décisions politiques à ne pas renouveler ces masques, hein, parce qu'ils ont un temps de vie pour leur efficacité. Et donc très probablement au niveau gouvernemental, il a été décidé de ne pas réacheter ces masques. Et donc on en arrive à cette situation à l'heure actuelle, alors que les masques sont la première barrière de protection, notamment contre des agents infectieux aéroportés.
Des masques qui seraient bien utiles, en tout cas pour le déconfinement à venir. On nous parle évidemment du 11 mai, on en saura plus la semaine prochaine sur les modalités du déconfinement, qui devrait se faire par étapes. Alors, sans attendre, des amoureux de la nature réclament le droit de pouvoir se promener dans les bois et ailleurs. Une pétition pour, je cite, un accès responsable à la nature a déjà été signée par plus de 75 000 personnes. On en parle ensemble, Jean-François Guégan et Jean-Louis Etienne, dans un petit peu plus d'une minute, le temps d'écouter les explications de Célia Kiré.
Il ne s'agit pas de se précipiter sur son parapente ou sur un site d'escalade. Il ne s'agit pas non plus de demander le retour des randonnées de groupe ou des pique-niques au bord des lacs. Les auteurs de cette tribune, comme le psychiatre Christophe André, réclament simplement le droit de se promener dans la nature, seul ou à deux, car non seulement cela n'a pas d'incidence sur le virus, écrivent-ils, mais le contact avec la nature et le sport sont bénéfiques pour la santé, surtout en période de confinement.
Le fait de marcher dans la nature, dans un environnement naturel, dans la verdure, en bord de fleuve, en bord de mer, apporte des bénéfices, notamment sur l'immunité, sur les niveaux d'inflammation, sur le stress. Donc c'est quand même des choses dont on a besoin en ce moment. Plusieurs études ont montré que c'était un moyen de réduire les inégalités sociales. Si vous avez un logement petit et inconfortable, le fait de pouvoir bénéficier des squares, des lieux publics où il y a de la verdure, de pouvoir marcher un peu, est un réducteur d'inégalités en matière de santé.
Et d'ailleurs, en Allemagne, la pratique des sports de plein air a même été encouragée. Christophe André a peu d'espoir que le gouvernement réponde oui tout de suite aux sorties dans la nature, mais il espère, comme les autres signataires, que les textes pourront être assouplis et que les prochains confinements seront moins stricts, à condition bien sûr que les promeneurs respectent certaines règles de distanciation.
Explication de Célia Kiré, Jean-Louis, Étienne. Vous comprenez cette demande? Forcément, vous la comprenez, mais c'est vrai qu'il faut concilier les nécessités de la lutte contre la pandémie et puis c'est ce besoin de nature.
Au combien? Alors Jean-François Guégan est un grand connaisseur des forêts, plus peut-être des forêts tropicales, mais je dois dire qu'effectivement, écoutez, moi je suis, comme je vous l'ai expliqué, entouré de forêts. Le premier voisin, il est à 800 mètres, c'est un agriculteur, et on se promène dans la forêt, on va pas loin, reste là. Mais sincèrement, c'est quelques pas dans la forêt, surtout en ce moment où il y a des oiseaux, où les feuilles sortent, où ça devient vert, où on respire l'air pur autre que l'air confiné des fois des appartements. Il est évident, c'est quelque chose qui vous restaure. Et donc ça fait appel à la responsabilité personnelle des gens. Effectivement, on n'est pas obligé de tous partir dans le même coin et mais je pense que ce que dit Jean-Christophe André, il a tout à fait raison. Surtout, on arrive à un moment donné où dans certains points, le fait de s'aérer un petit peu, de se libérer l'esprit, est quelque chose qui est assez bénéfique, à une condition bien sûr que c'est que chacun le fasse dans la, avec les règles qui s'imposent. Quoi.
Voilà, et c'est vrai que le bonheur est dans le pré, et parfois le pré n'est pas si loin. Écoutez bien. Alors vous vous demandez sans doute où on est, eh bien c'est bienvenue à la gare de l'Est, figurez-vous. Les oiseaux ont investi les lieux, on les entend, faut en profiter, c'est exceptionnel. On assiste depuis le début du confinement à des scènes qu'on n'imaginait pas. On a vu des canards en plein Paris vers l'Opéra, des biches jusqu'en dans certaines villes. Jean-François Guégan, certains ont dit la nature reprend ses droits, on peut dire ça?
Oui, bien sûr. Alors c'est intéressant parce que on sait aujourd'hui, il y a énormément d'études, que l'observation du vivant, l'observation des oiseaux, et même si vous êtes en ville, ou l'observation de fleurs d'ailleurs, même si vous êtes en ville et que vous avez la possibilité d'observer des oiseaux, eh bien va vous garantir une meilleure santé et un meilleur bien-être par rapport à des populations qui ne peuvent pas le faire. Et ça représente aussi une arme essentielle, bien entendu, en termes de bien-être et de santé pour combattre des infections. Donc on a aujourd'hui de plus en plus d'illustrations scientifiques qui le démontrent. Donc effectivement, vivre à proximité de la biodiversité, de son observation, est une garantie pour accroître la santé et le bien-être des populations.
Ça veut dire qu'on pourrait éventuellement assouplir ce confinement pour pouvoir profiter des bienfaits de la nature. Qu'est-ce que vous en dites, vous qui êtes un spécialiste des épidémies et de ces sujets-là?
Bien entendu, hein, je pense que les citoyens ont besoin aujourd'hui de se divertir, et ça c'est une demande qui est essentielle, mais en tant que parasitologue, je dois conseiller à ces personnes qui fréquenteront les écosystèmes naturels tels que les forêts, qu'ils sont aussi à risque, par exemple, de contracter lors d'une morsure-piqûre d'une tique, de contracter la fameuse maladie de Lyme. Donc je leur suggérerais, bien entendu, de se promener, de s'aérer, d'observer les arbres, la nature, les oiseaux, mais de faire très attention aux morsures de tiques qui transmettent cette maladie de Lyme due à une bactérie en mettant des habits, de se couvrant, ne laissant pas les parties de leur corps nues pour éviter les tiques et les morsures de ces tiques et lors du retour à la maison, eh bien de s'observer et de vérifier s'ils n'ont pas été mordus ou piqués par une tique afin d'éviter une pathologie qu'on appelle la maladie de Lyme.
Voilà, il n'y a pas que le coronavirus, c'est important effectivement de le rappeler. Jean-François Guégan, est-ce qu'on peut dire que la crise qu'on vit aujourd'hui est liée au changement climatique, comme ont pu le dire certains écologistes? Est-ce qu'on peut faire le lien directement?
Alors, de ce que je connais, et pour le moment, il n'y a pas de démonstration formelle, scientifique, qui permette de l'assurer. On ne peut parler que de possibles hypothèses qui seront étayées ou non dans le temps. En revanche, on peut faire une analogie avec un autre virus qui a circulé à la fin des années 90, qu'on appelle le virus Anipa, qui est transmis par des chauves-souris d'un autre groupe que les chauves-souris impliquées pour le coronavirus actuel, et qui sont des ptéropuces, qui sont des chauves-souris géantes qui ont quitté l'Indonésie. L'Indonésie a déforesté pour la plantation du palmier à huile, et elles quittent leurs habitats déforestés et viennent se réfugier en Malaisie. Et elles transportent, elles possèdent naturellement un virus qui est le virus dit du virus Nipah, qui est un virus extrêmement mortel puisque les cas primaires peuvent mourir, comme au Bangladesh, à environ 70 à 72% de la population infectée mourant de cette infection extrêmement importante. Et donc en se posant en Malaisie ou au Bangladesh à la recherche de nourriture, de fruits, vous voyez des mangues, des ramboutans qui ressemblent un peu à des kiwis, à des litchis, excusez-moi, eh bien, elles vont aussi uriner des particules virales. Et lorsque les mangues vont tomber à terre, des porcs vont venir récupérer ces mangues pour s'en nourrir, mais aussi récupérer ces particules virales par leur système respiratoire et déclencher une maladie.
Jean-François Guégan, pardonnez-moi.
Pardon.
Je vous laisse terminer.
Pardon, et déclencher une maladie que l'homme pourra contracter, qui est cette fameuse maladie à virus Nipah. Et on voit bien avec cet exemple de la circulation et de l'émergence du virus à Nipah que la déforestation en Indonésie est responsable de ces épidémies très sérieuses qu'ont connues Singapour, la Malaisie et un peu plus tard le Bangladesh.
Est-ce qu'il y a, Jean-François Guégan, des endroits dans le monde à préserver en priorité pour éviter justement la multiplication de ce genre de phénomène?
Alors les zones les plus sensibles que l'on appelle des hotspots, c'est-à-dire des zones très sensibles à un risque infectieux émergent, eh bien ce sont toutes les zones où il va y avoir une altération, c'est-à-dire un contact très important entre les populations humaines qui vont développer l'agriculture et l'élevage, et pour développer l'agriculture et l'élevage vont déforester plus ou moins massivement. Et on les connaît aujourd'hui, ces zones, et par exemple, je pense à l'Amérique centrale, le Guatemala, le Costa Rica sont des zones extrêmement importantes par rapport à un risque infectieux émergent, et c'est d'autant plus vrai que la diversité biologique en macro-organismes, c'est-à-dire la part de diversité biologique que vous observez, que vous pouvez admirer, est importante, mais comme le disait Monsieur Étienne, cette diversité biologique et ces écosystèmes contiennent aussi une multitude de micro-organismes dont certains peuvent se révéler être des agents pathogènes futurs pour les populations humaines demain. Et donc l'interaction aujourd'hui et l'altération des écosystèmes naturels pour le développement plus ou moins important à travers la déforestation, de l'agriculture pour le développement des ressources vivrières, mais aussi de l'élevage, et on pense immédiatement au Brésil, sont aussi à risque parce qu'elles proposent les circonstances pour le développement de nouvelles infections humaines à travers ces interactions que nous constatons.
Est-ce qu'il y a des peuples autochtones qui sont particulièrement menacés par ce qui se passe là actuellement ?
Alors, vous voulez dire par le...
Encore plus menacés, oui. que nous, peut-être en Occident ?
Eh bien, tout d'abord, ils sont menacés par la déforestation, comme en Amazonie, en Afrique centrale, comme les populations des différentes ethnies de Pygmées, bien entendu. Mais ces populations ont une connaissance aussi anthropologique du risque infectieux. On sait aujourd'hui, et il y a beaucoup d'études par des collègues anthropologues, d'ailleurs au Musée de l'Homme aujourd'hui, Musée de l'Homme à Paris, qui travaillent sur les comportements des populations de Pygmées par rapport à un risque infectieux à virus Ebola qu'ils auraient pu contracter finalement dans leur histoire. Et ils ont des comportements finalement qui sont, lorsqu'un individu est infecté par quelque chose qu'ils ne connaissent pas, parce qu'ils n'ont bien entendu pas cette connaissance occidentale à l'identification du virus, mais ils remarquent que cette personne peut être malade, qu'elle peut expectorer du sang, provoquer des hémorragies, et donc ce qu'ils pratiquent, c'est le départ. Ils quittent ce qu'on appelle le locus forestier, le lieu d'habitation, ils vont demander à un villageois de rester avec l'individu malade, et ils quittent le locus forestier, c'est-à-dire le lieu de leur village, pour migrer et développer un autre village plusieurs dizaines ou centaines de kilomètres plus loin.
Jean-Louis Étienne, si j'entends bien ce que dit Jean-François Guégan, est-ce que vous nous disiez tout à l'heure, ça veut dire qu'on ne sortira pas de cette crise sans prendre en compte l'impératif environnemental, ça n'aurait pas de sens?
Bien sûr. Je voulais rebondir sur ce que vous avez fait entendre tout à l'heure des oiseaux qui chantent.
De la gare de l'Est. Ça vous a fait rêver, hein.
Et oui, non seulement ça fait rêver, mais je rebondis parce que il y a 60 ans, il y a une américaine qui s'appelle Rachel Carson qui avait écrit un livre, The Silent Spring, Le Printemps Silencieux. Ça venait effectivement d'un excès de DDT. À ce moment-là, on mettait du DDT partout, si vous voulez, pour tuer tout. C'était un biocide important. On en mettait partout et on s'était rendu compte qu'il y avait de moins en moins d'oiseaux au printemps qui chantaient. Ben aujourd'hui, c'est l'homme qui fait silence. Et c'est les oiseaux qui prennent le relais. Et donc aujourd'hui, on entend les oiseaux qui chantent de nouveau le printemps chantant parce que l'homme fait silence. Donc ça, effectivement, c'est une leçon importante qu'il va falloir, je dirais que pas forcément s'imposer, mais ça devient tellement naturel. On a touché quelque chose aujourd'hui avec cette nécessité, effectivement, de préserver la nature. Je crois que il n'y a pas de solution globale. On entend de temps en temps, il faut changer de paradigme, mais ça, c'est compliqué. Si chacun d'entre nous est efficace sur sa zone d'influence, vous voyez, on a tous une zone d'influence sur son impact local, familial, professionnel, politique, si on est engagé. Si chacun est efficace sur cette zone d'influence, ben, par proximité, on peut arriver à avoir des résultats rapides.
À condition de ne pas faire passer forcément les impératifs économiques avant les autres impératifs. On va en parler dans quelques secondes, le temps d'écouter Jeanne Chéral, Fleur de Peau.
Je n'ai jamais caché mon corps sous des voilures opaques. Je n'ai jamais dû me courber. Je n'ai jamais tremblé de peur au son d'un parquet qui craque. Jamais dû me planquer. Je n'ai jamais connu la guerre ni la mort sur du froid. Jamais la faim qui ronge les doigts. Et pourtant chaque jour je sens monter la plainte sans joie. Oh, mais tais-toi.
Jeanne Charal, Fleur de Peau, choix musical, signé Muriel Pérez.
France Inter, le 18-20.
18-20, spécial en compagnie jusqu'à 19h de l'explorateur Jean-Louis Etienne et du chercheur Jean-François Guégan. Le confinement de la moitié de l'humanité a un impact économique et social énorme qui risque de conduire à privilégier avant tout le court terme, car les gens ont besoin de travailler et de se nourrir. L'économie, Jean-Louis Etienne, l'économie telle qu'on la connaît, risque de reprendre très vite ses droits. On voit là, par exemple, cette semaine, le MEDEF en France a demandé un moratoire sur les normes environnementales. Aujourd'hui, il y a l'annonce de ces milliards pour sauver Air France. Ça va être difficile de concilier les impératifs environnementaux et la suite des événements ?
Oui, ça va être difficile, mais il faut être exigeant. Parce qu'on voit bien, effectivement, on le répète pas assez, jamais, que ces pandémies, elles nous menacent, si vous voulez. Moi, j'ai toujours pensé que le danger venait de l'infiniment petit. Vous voyez, c'est les armes de destruction massive, ces grosses choses qui sont là pour montrer la puissance des États. Je pense qu'il y aura toujours quelqu'un de raisonnable pour la diplomatie pour intervenir de manière à ce qu'on n'appuie pas sur le bouton. Mais par contre, ce qui nous menace aujourd'hui, c'est l'infiniment petit. Ces virus, Jean-François Guégan le dit, c'est un grand spécialiste, ils sont partout. Vous savez qu'il y en a, beaucoup. Dans un millilitre d'eau de mer, vous avez entre 10 millions et 100 millions de virus. Ils sont partout. Donc l'objectif, c'était une alerte sérieuse que nous venons de vivre, que nous sommes en train de vivre. Le respect des écosystèmes. Alors je suis d'accord avec Jean-François Guégan, peut-être le réchauffement climatique, l'élévation de la température même moyenne de la surface de la Terre, peut-être ne fait pas émerger, mais ce qui les fait émerger, c'est la destruction des écosystèmes. Et le réchauffement climatique entraîne des destructions d'écosystèmes, des sécheresses, etc., avec des mobilisations d'espèces qui se déplacent. Et donc, il faut tirer de cette leçon aujourd'hui que les mesures environnementales doivent être la priorité. L'Europe l'a dit, le président Macron l'a dit, tout le monde le dit, mais là on est obligé de passer à l'acte.
Alors il y en a
c'est
un quand même.
C'est une conciliation inévitable.
Pardonnez-moi Jean-Louis Etienne, il y en a un qui ne le dit pas et je me souviens quand vous nous aviez dit il y a 3 ans lorsque les États-Unis avaient annoncé qu'ils se retiraient de l'accord de Paris sur le climat, vous nous aviez dit à propos de Donald Trump, on a toujours besoin d'un idiot utile. Alors, Alors je voudrais qu'on réécoute ce qu'a dit le président des États-Unis hier lors d'un point de presse à la Maison-Blanche, parce que on le savait incontrôlable, mais là il a sans doute franchi les limites de l'entendement, puisqu'il est allé jusqu'à suggérer d'utiliser du désinfectant pour lutter contre le coronavirus et peut-être même d'en injecter aux malades. On l'écoute.
Admettons qu'on frappe le corps avec une quantité très importante d'ultraviolet ou juste une lumière très forte. Admettons qu'on amène la lumière à l'intérieur du corps. On peut faire quelque chose comme cela à travers la peau ou d'une autre façon. Je pense qu'on pourrait tester cela. Et puis, je vois le désinfectant qui neutralise en une minute. Est-ce qu'on pourrait faire quelque chose comme ça, avec une injection à l'intérieur, ou presque comme si on nettoyait l'intérieur? Car vous voyez, ça va dans les poumons, ça serait intéressant de tester ça.
Bon là, cette fois, ça a quand même sidéré tout le monde, hein, vous aussi. Jean-Louis Etienne, toujours, vous le qualifiez toujours d'idiot utile?
Ah non, mais c'est grave, c'est dangereux. Il y a le syndicat des fabricants de produits de nettoyage qui ont lancé une alerte en disant aux gens, surtout n'écoutez pas le président,
ça
s'est dit un peu mieux. Mais vous vous rendez compte, c'est meurtrier ce qu'il est en train de proposer. C'est le président d'une puissance comme ça. Donc
compliqué, hein, surtout qu'il faudra une réponse aussi internationale. Jean-François Guégan, je me retourne vers vous. Qu'est-ce qu'on peut dire du rôle de l'OMS dans cette crise? Est-ce qu'elle a été suffisamment indépendante? Est-ce qu'elle a assez de moyens pour agir? Qu'est-ce qu'elle peut faire?
Alors, je voudrais, si vous permettez, juste rebondir sur ce que venait de dire.
Allez-y, faites comme chez vous.
Monsieur Etienne, à propos de guerre nucléaire versus guerre microbiologique, eh bien les Russes, enfin les Soviétiques à l'époque, durant la guerre froide, se préparaient justement, et c'était découvert hein, dans un programme qu'on appelle Biopreparat, avec un laboratoire dans la mer d'Aral, se préparait beaucoup plus à une guerre microbiologique, avec la sélection de virus, de variole, à propulsion aérosolique, plutôt qu'une guerre nucléaire. Donc vous voyez, ils avaient déjà à l'époque bien vite compris. Alors pour revenir à l'OMS, moi je pense que nous sommes face à un problème qui est un problème international, qui est aussi de l'importance accordée à ces institutions internationales. L'OMS n'est pas une institution suffisamment dotée, probablement que les États, et vous avez bien vu la réaction de Donald Trump de retirer la contribution américaine, alors que c'est totalement l'inverse qu'il faudrait faire. Et aujourd'hui, l'OMS est en quasi-impuissance. Hein, vous voyez quasiment son absence aujourd'hui dans le discours international. Hein, pour moi, c'est absolument frappant, alors qu'il faut absolument une réaction des différents États, de la France en particulier, mais aussi de l'Europe, à une rediscussion internationale du rôle de ces instances telles que l'OMS, mais aussi la FAO ou d'autres institutions. Moi, ça m'apparaît crucial. À un moment où dans beaucoup de pays et sur des continents, par exemple africains, on a vu, alors ce sont des terrains que je connais très bien, on a vu des fondations privées, et je pense à la fondation Bill et Melinda Gates, accorder beaucoup d'argent, mais aussi quelquefois être en concurrence, en compétition avec des actions faites par l'OMS, à tel point qu'en Afrique, les gens aujourd'hui reconnaissent beaucoup plus le travail fourni par cette fondation-là ou par certaines ONG plutôt que l'OMS. Et ça, je trouve assez ridicule aujourd'hui. Donc il faut que les nations du monde, la France et l'Europe, montent aujourd'hui au créneau et réorganisent, donnent beaucoup plus de moyens à ces institutions qui sont fondamentales dans le dispositif.
Jean-François Guégan, diriez-vous que ce qui nous arrive aujourd'hui, c'est un coup de semonce et qui pourrait nous arriver peut-être pire à l'avenir? Il pourrait y avoir des pandémies encore plus graves au niveau de la létalité notamment.
Oui, bien sûr. C'est un coup de semonce et nous devons aujourd'hui, bien entendu, réfléchir à l'organisation de nos systèmes. Probablement mieux nous adapter. Certainement, parce que des pandémies de ce type, il y en aura obligatoirement. Alors ce qui est intéressant, suite à de très nombreuses interviews que nous avons pu avoir sur certains blogs, vous allez pouvoir lire que nous sommes les nouveaux prêcheurs du 21e siècle. Moi, je suis un scientifique et je me repose sur des faits. Et les faits, je les vois quand je fréquente les zones intertropicales, c'est-à-dire cette réaction des écosystèmes agressés par l'avidité humaine à la recherche de nouveaux territoires pour le développement d'une agriculture ou de l'élevage, et des mises en contact de ces personnes avec des germes microbiens qui sont depuis la nuit des temps dans ces écosystèmes et qui deviennent aujourd'hui les maladies infectieuses émergentes d'aujourd'hui avec ce Covid-19, les précédentes qu'on a pu avoir. Mais il y a un potentiel énorme à générer de nouvelles pandémies dont certaines pourraient être beaucoup plus violentes que celles que nous subissons aujourd'hui. Rappelez-vous le virus à Nipah qui tue 70 à 72% des individus qu'il infecte. Et c'est énorme.
C'est énorme.
Que feront nos sociétés lorsqu'elles rencontreront un virus ou une bactérie de ce type?
Eh ben voilà, ce sera votre conclusion, Jean-François Guégan. J'espère que on fera attention à l'avenir. Un très grand merci d'avoir été avec nous ce soir et de nous avoir éclairé. C'est absolument passionnant. Jean-Louis Etienne, je vous garde un tout petit peu encore parce que c'est l'heure de notre rubrique confinée mais pas résignée. On va voir que ce soir que la créativité n'est pas entravée par la pandémie. On le disait au tout début de l'émission, bien au contraire, on va voir notamment comment un laboratoire de fabrication numérique, un Fab Lab situé en Bretagne, produit des visières de protection contre le virus et même, c'est inédit, des ouvre-portes pour se protéger les mains. C'est nouveau, ça vient de sortir. Bonjour Antoine Lee.
Bonjour à tous, bonjour Claire. Direction Amanlis où on retrouve Antoine Tabé, c'est le responsable du Fab Lab de la communauté de communes de la Roche-aux-Fées. Alors bien évidemment, à cause du confinement, le site est fermé au public, mais Antoine Tabé a obtenu une dérogation pour se rendre sur son lieu de travail pour y fabriquer des visières de protection en plastique. Bonjour Antoine.
Bonjour.
Combien de visières en plastique vous fabriquez par jour ?
Alors aujourd'hui, avec les 9 imprimantes 3D du Fab Lab, nous arrivons à produire jusqu'à une centaine de visières par jour. Nous avons aujourd'hui pu distribuer jusqu'à 600 visières sur l'ensemble du territoire.
Vous fabriquez également des ouvre-portes, alors ça c'est assez original. De quoi s'agit-il ?
Alors il s'agit bêtement d'une petite griffe imprimée en 3D, donc imprimée en plastique. Eh bien, cette petite griffe va pouvoir permettre d'aller agripper une poignée de porte sans avoir besoin de la toucher pour éviter donc la propagation du virus.
Là, vous êtes dans le laboratoire, là ?
Oui, tout à fait.
Pourriez-vous nous faire écouter le son que ça fait, une imprimante 3D ?
Bien sûr. Alors je vais approcher mon téléphone d'une imprimante 3D. Je vous fais écouter.
Et comment votre laboratoire de fabrication numérique s'est retrouvé à fabriquer des visières en plastique et des ouvre-portes ?
Eh bien, il faut savoir que depuis 3 semaines est née une initiative nationale qui s'appelle l'initiative Visière Solidaire, qui vise à mettre en relation des Fab Labs pour qu'ils puissent proposer et fournir des visières de protection à destination du personnel soignant qui est en première ligne. Il y a également quelques assistantes maternelles qui ont pu être équipées. Ah, je crois que ça frappe à la porte, ne quittez pas.
Qui c'est qui frappe à votre porte là, Antoine ?
Il s'agit de Morgane, qui est une infirmière libérale sur Amanlis, à qui je dois remettre des visières.
Vous pouvez me passer Morgane, s'il vous plaît ?
Oui, alors je pose mon téléphone sur la table, comme ça elle va pouvoir vous entendre sans avoir besoin d'y toucher. Ne quittez pas.
Oui, bonjour.
Bonjour. Morgane, vous, en tant qu'infirmière, qu'est-ce que ça représente, l'initiative qu'a prise ce laboratoire de fabrication numérique ?
On s'est senti un peu moins seul sur le terrain. On se sent plus à l'aise dans nos soins, plus protégé, physiquement et psychologiquement. On a l'impression de d'être moins oublié, parce qu'on parle beaucoup des professionnels de santé sur le terrain à l'hôpital, mais on parle peu des professionnels de santé qui sont sur le terrain à domicile.
Merci beaucoup. Est-ce que vous pourriez me repasser Antoine, s'il vous plaît ?
Oui, c'est bon, je suis là.
Vous, à titre personnel, qu'est-ce que ça représente, ce que vous êtes en train de faire ?
Pour moi, ça représente une certaine fierté. C'est l'idée de pouvoir être utile au personnel qui en ont besoin et surtout de pouvoir donner de son temps en ces temps de confinement pour pouvoir aider les personnes qui en ont le plus besoin.
Alors, il faut préciser qu'il existe en France 300 laboratoires de fabrication comme le vôtre et la plupart, comme vous, fabriquent gratuitement des visières en plastique. Antoine Tabé, merci beaucoup et surtout bon courage pour la suite.
Merci beaucoup à vous également. Au revoir.
Et un grand merci à Antoine Lee. Si vous voulez voir à quoi ressemble cette ouvre-porte, eh bien rendez-vous sur la page du 18-20. Jean-Louis Etienne, je suis sûr que ça vous a plu, truc, vous qui êtes un bricoleur né.
Moi, je trouve ça génial, si vous voulez. Voilà, on se rend compte que la réponse, elle n'est pas loin. Vous voyez ce que je veux dire ? Ce que disait tout à l'heure Jean-François Guégan, il a raison, l'OMS doit s'occuper de gérer ça à l'échelle du globe, mais les solutions, réinventer des solutions, il y a du génie, si vous voulez, et chacun est confronté aujourd'hui à la nécessité d'agir, et on se rend compte que les gens ont de la générosité, ont de la spontanéité, ils ont des idées et ils sont capables de fabriquer des visières en plastique avec du 3D, vous vous rendez compte ? Je trouve ça formidable.
Voilà, il faut aller au bout de ses rêves et prendre des initiatives, c'est plus que jamais votre devise, hein, j'imagine.
Allez, oui, même allez jusqu'au bout de vos rêves, même si le chemin est difficile. Parce que la tentation de l'abandon, elle est souvent là quand c'est compliqué, quand ça vous dépasse. Et donc, il faut savoir effectivement reprendre, je dis tout le temps, remettre le rêve à la surface. Quand on a une idée, peut-être le confinement est l'occasion pour certaines personnes qui avaient une idée, quelque chose en tête, de se dire c'est peut-être le moment de la mettre à l'œuvre. Il y a du découragement, et le découragement c'est un franchissement permanent, sinon rien ne se fait, quoi. Persévérer sur la voie de vos rêves, même voilà. Si le chemin est difficile.
Et voilà, ce sera le mot de la fin, le message de Jean-Louis Etienne. Un immense merci d'avoir participé à cette émission, Jean-Louis Etienne. Je vous laisse à votre Tarn natal. Tout à l'heure, à 19h20, au téléphone sonne, on parlera des pénuries de médicaments. C'est un sujet plus que jamais d'actualité. Appelez-nous au 01 45 24 7000.